En 2001, Nicolas Cage retournera dans la Seconde Guerre mondiale et y retournera être un Italien. Bienvenue dans Citizen Kane.
Cop car!
I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
What?
I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his face off.
Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Comme toujours, je suis Alexis Duclos et je suis accompagné par Julien Asunsao. Salut Julien.
Ouais, salut Alexis.
Et aujourd'hui, on va parler de Captain Corelli.
Ouais, bah écoute, c'est un film dont j'ignorais l'existence, mais en se penchant dessus, c'est pas si inintéressant que ça. Donc comme tu l'as dit en intro, on va retourner un petit peu guerroyer. Donc non, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu Nicolas Cage qui est dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, où on l'avait eu un petit peu dans différents pays. Là, cette fois, c'est en Grèce. Donc Capitaine Corelli, du coup, pour vous remettre dans le contexte, c'est un film britanno-franco-américain, donc il y a mal de collaborations, réalisé par Joe Madden, avec quand même un casting qui est pas trop dégueu. Penelope Cruz, John Hurt, Christian Bale et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux.
C'est pas mal.
On va suivre, comme le nom du film Capitaine Corelli l'indique, le capitaine Antonio Corelli, donc qui est joué par Nicolas Cage, qui dirige une garnison italienne qui est en fait en train d'occuper la Grèce. Donc après, on a eu comment il s'appelait ce film, Le Raccourci, où il était déjà un occupant. Cette fois, c'est la Grèce. Donc il s'installe dans une maison du docteur Yanis et de sa fille Pelagia. Ou Pelagia, je sais pas exactement comment on prononce, on va le découvrir un peu en regardant le film, j'imagine. A priori, il tombe amoureux de cette fille, elle est aussi charmée, mais il se trouve qu'elle attend le retour de son bien-aimé, qui est un militaire de l'armée grecque. Et puis au moment où les troupes italiennes s'apprêtent à partir, le capitaine Corelli, il doit choisir entre rester sur place pour elle ou retourner dans sa patrie et obéir aux ordres. Donc tout un programme.
Ouais.
Encore une fois, un peu comme Le Raccourci, justement, un contexte historique qui m'est totalement inconnu. L'occupation de la Grèce par l'Italie, j'avoue que je suis pas un spécialiste.
Non, puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même du point de vue des Italiens, qui étaient quand même du côté de l'axe, du côté des méchants, hein, à l'époque. Donc ça, c'est plutôt intéressant à regarder, puis ne serait-ce que pour le sujet, on va dire. Hein, après, le film, on sait pas, j'ai aucune idée.
Ouais, c'est ça, on sait pas quelle part prend l'histoire, la grande histoire, on va dire, dans le scénario du film.
C'est ça.
Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir sur des films de Seconde Guerre mondiale, d'avoir un petit peu des endroits, des petits morceaux qui sont un peu différents de ce qui est très connu, quoi.
Oui, puis après, alors, comme tu disais, tu savais pas qu'il existait, moi non plus, donc je pense que c'est pas non plus un stretch de dire que tu l'as jamais vu, hein. et surtout, personnellement, j'ai aucune idée de qui John Madden est. Et on parle de John Madden, le réalisateur, pas John Madden, le gars qui a sa face sur les jeux Madden. Jusqu'à 97, parce qu'à partir de 98, oui, il est remplacé par un joueur. Ou est-ce que c'est 2003,
je sais plus,
bref. Mais voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, les jeux Madden sont nommés par rapport à John Madden, le commentateur et coach, je crois, de football américain.
Oui, voilà.
C'est ça que j'avais oublié tantôt d'en parler.
Oui.
C'est ça aussi un coach. Bref, tout ça pour dire que John Madden, le réalisateur, je sais pas vraiment ce qu'il a fait, à part le pilote d'une série qui s'appelle Masters of Sex, qui est génial.
Et bah, il y a un film assez connu qui est Shakespeare in Love.
C'est lui qui a fait Shakespeare in Love.
Voilà, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est peut-être pas son premier film, mais je crois que c'est au début de sa carrière. Après, il a pas forcément une filmographie immense, mais et puis plus récemment, voilà, Miss Sloane avec Jessica Chastain que j'avais bien aimé, qui parlait justement d'une personne qui organisait des parties de poker pour les riches et qui faisait face à un procès, quoi. Et du coup, elle racontait son histoire à rebours, donc c'était plutôt un bon film, visuellement très propre, et puis qui parlait d'une histoire assez originale, donc
c'est vrai que
donc qui m'avait fait une bonne impression, donc du coup ça me donne envie de voir ce qu'il va faire là, parce que il se trouve ouais, Miss Sloane, c'était j'avais trouvé ça très moderne au niveau du visuel et de la façon de le réaliser, donc ça fait toujours bizarre c'est quelqu'un qui a en fait un peu parcouru les années, voir à l'époque comment il s'en sortait.
Pour être honnête, en plus, comme tu disais, Shakespeare in Love est sorti avant Captain Corelli.
C'est juste, je sais pas si c'est son premier film, mais.
Je pense pas, mais en tout cas, personnellement, mis à part le fait qu'il y a Ben Affleck dedans, j'avais beaucoup apprécié ce film. Vu que Shakespeare in Love est aussi une romance finalement. Et que dans ce film-là, il y a l'air d'avoir des éléments de romance, même s'il est considéré comme un film de guerre, j'ai l'impression que ça peut au moins être intéressant à regarder.
Oui, et puis il me semble que Captain Corelli est une adaptation d'un bouquin.
Mm-hmm. Ouais, oui, c'est
donc,
ça. Du même nom, de Louis de Bernière, qui est, guess, un Français. Ah non, c'est un Anglais.
écoute. Louis.
Louis, qui est toujours en vie, je trouve ça, je sais pas pourquoi.
On en a parlé un peu plus tôt, le casting aussi est assez intriguant.
Le casting est lourd, là, ouais.
Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'Italiens ou beaucoup de Grecs dans le casting.
Pas du tout, hein.
Enfin, en dehors de Nicolas Cage qui a ses racines.
Il y a beaucoup d'Anglais, hein, on a John Hurt, on a... on a Christian Bale qui vont probablement jouer des Allemands, je sais pas pourquoi, hein. Je trouve ça étonnant.
Et puis Penelope Cruz qui, j'imagine, elle joue une grecque vu qu'elle joue a priori Pelagia. Donc pas trop d'acteurs grecs, mais en tout cas des acteurs qui quand même ont un petit peu de bouteille, une belle carrière. Donc là, les voir un peu tous s'échanger les lignes de dialogue, ça va être intéressant à voir. Ça donne un petit peu envie, quoi.
Puis on s'entend qu'on est aussi dans... on est en 2001, donc on a le droit à 2001 Christian Bale, qui venait juste de sortir de d'American Psycho, donc le gars, il est là-haut, là. C'est 2000-2005, c'est là où il a fait Equilibrium, c'est là où il a fait The Machinist, enfin, c'est là où il a pris du poids, et... peut envoyer du lourd.
Dans des films un petit peu... L'Empire du Soleil, c'était avant, non ?
Non, justement, c'est un peu après.
C'est encore après ?
Oh, ouais. Ouais,
d'accord.
Donc vraiment.
Ouais, c'est la période où il a commencé en fait à exploser, on va dire, en tournant les films pas forcément mainstream.
Ouais.
Avant, évidemment de choper le rôle
de Batman.
De Batman, et bon, ça lui a encore changé sa carrière, pas forcément. Enfin, il avait quand même une carrière très respectable avant.
Très, très bonne.
C'est juste
carrière,
que ça a changé le type de film dans lequel il apparaît.
Non, mais voilà, donc on a quand même le droit à de très très bons acteurs.
John Hurt, qui est très connu principalement pour avoir joué dans Doctor Who, évidemment.
Voilà, très très connu pour être le War Doctor. Et d'ailleurs, il y a aussi David Morrissey dedans qui a aussi joué dans Doctor Who. Et dans Blackpool.
J'ai pas vu qu'il était dedans.
Donc il y a encore un autre anglais, quoi. Il y a que des anglais, que des fucking anglais dedans.
C'est l'auberge espagnole.
Ouais.
Pas grand chose de plus à dire. Pas forcément d'autres choses à dire. Ouais.
Exact. Mais sur ce, on va aller voir le film et on se retrouve juste après.
We refuse to surrender to a nation that we have defeated in Albania, and we reserve the right to surrender to a German officer of significant rank, so fuck off.
Et on est de retour après avoir vu Captain Corelli de John Madden.
Oui, la mandoline du Capitaine Corelli, la fameuse. Qui n'a pas eu le droit à être traduit dans le titre français. On a eu le droit à Captain Corelli, mais bon. Quand même personnage important du film. Hein.
La mandoline?
Oui.
Ouais, bah oui, super important.
Non mais c'est le bouquin a été traduit comme ça, donc c'est pour ça ils n'ont pas voulu le faire pour la... Ils ont voulu quelque chose de plus court pour le film, écoute. Donc oui, film qu'on a tous les deux découvert, et que, a priori, tu m'as dit que tu avais beaucoup de choses à dire, donc on va attaquer le petit résumé, puis après, apparemment, je devrais te laisser un peu la parole.
Ça va juste être moi qui rant, hein, c'est pas... Mais bon.
Oui, je me doute, quand on a beaucoup de choses à dire, c'est pas forcément toujours pour dire du bien, mais bon. Mais oui. Alors, comment ça commence ce film déjà?
Eh ben, on a le droit à John Hurt.
Oui.
Et Penelope Cruz qui sont, en fait, John Hurt qui joue un médecin dans une petite île de Grèce, Yonan, les îles d'Yonan, I guess. Céphalonia, pardon, Céphalonia.
Oui.
Et en gros, on a le droit à John Hurt qui nous montre, c'est un médecin, c'est un bon gars,
je pense,
un médecin.
On va le faire peut-être au long du résumé. Hein. Est-ce que les différents acteurs sont crédibles en tant que grec?
John Hurt, pas trop mal.
Oui,
pas trop
justement.
Mal.
John Hurt et Penelope Cruz, je dirais plutôt bien.
Ouais, Penelope Cruz, surtout parce qu'elle est quand même de descente latine.
John Hurt, j'étais étonné, ça va. Ça
mais oui, bien. John Hurt aussi. Alors, moi, par contre, la chose qui me fascine le plus, et ça, c'est la chose où j'ai été le plus étonné, c'est justement à quel point ils sont très... en tant que père et fille, ils sont quand même très... bon, en fait. Enfin, ils sont très, tout à fait... raisonnable là-dedans.
C'est vrai que ça m'a pas choqué plus que ça.
C'est John Hurt et Penelope Cruz, ils ont quand même pas forcément le même visage, ils ont pas forcément le même.
Non, mais c'était
même temps.
Pas la même Penelope Cruz que maintenant. Enfin, elle était. Enfin, on la reconnaît, mais franchement, elle a beaucoup changé. Hein.
Puis sa voix est très très latine et tout ça, et je trouvais ça assez intéressant. Bon, après, comme on connaît pas sa mère, on en parle jamais dans le film, c'est pas difficile de s'imaginer que sa mère est un peu plus latine, puis du coup ça passe très très bien, en fait. Ils passent, deux, eux, passent très très bien, en tout cas.
Ce sera le cas pour tout le monde.
Je pense que ce sera le cas pour personne d'autre, en fait. Je vais même le dire maintenant, à part peut-être David Morrissey, mais ça on en reparlera quand on y sera.
Oui.
Bref.
Ouais.
Et voilà, donc on a le droit à un petit moment de vie bucolique où il y a l'air d'avoir une espèce de fête sur l'île.
Oui, une fête traditionnelle, en fait.
Voilà, et c'est là qu'on rencontre, John Hurt, qui est un médecin sec, mais juste et très sympathique, en fait, au final. On a le droit de rencontrer un peu Penelope Cruz, qui est un peu cette jeune fille qui essaye justement d'apprendre à devenir médecin, mais en même temps, elle est un peu... Elle est un peu tête en l'air, elle est très, elle est très amoureuse.
Elle reste jeune, même si c'est très dur de lui donner un âge, en fait.
Oui, en plus, je lui donnerais la vingtaine, quoi, I guess. Mais peut-être qu'elle est censée être plus jeune que ça, je sais pas.
Plus jeune, je pense pas, parce que vu l'âge de son père, enfin bon.
Et là,
c'est compliqué, en tout cas.
Voilà, on rencontre la... Et elle est aussi très amoureuse de Mandras. C'est ça le but du film. Et on rencontre tout de suite la première personne qui est extrêmement problématique pour moi dans ce film, c'est Christian Bale. Qui d'ailleurs, je vais être honnête avec toi, ça m'a pris bien trop de temps avant de me rendre compte que c'était Christian Bale.
Ah, moi, ça a pris 0 seconde.
Ah, tiens,
il y a Batman.
Ça a pris jusqu'au moment où, en fait, pour la petite histoire, en fait, voilà, ils ont une espèce de petite fête. Il y a un gars qui s'amuse à jouer avec un canon. On sait pas pourquoi il s'amuse à jouer avec un canon, c'est son deal, il joue avec un canon.
Non mais ça fait partie du truc, ils mettent des espèces de paillettes dans le canon et après ça les explose, les gamins ils vont les chercher et ils dorment dans le canon, voilà, les gamins ils aiment bien quand ça fait boum.
Sauf que là, pour faire plaisir aux enfants, il dit « Ah bah mettez plein de plein de caillasses, plein de grosses caillasses dans le canon, puis on va tirer. Et donc il tire le canon au même moment où il y a Mandras qui est en train de passer en dessous, donc genre, il se retrouve avec... il s'est fait tirer dans les fesses, parce que c'est toujours drôle de se faire tirer dans les fesses, et bon voilà, il se retrouve sur la table de John Hurt, qui vient et qui va le soigner, entre guillemets, il a littéralement juste des ecchymoses sur le cul, puis ça n'a pas l'air d'être exceptionnellement grave, mais voilà... Donc ça fait rire, puis moi c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, c'est genre, mais attends, mais est-ce que c'est Christian Bale, alors qu'on le voit pendant au moins 5 minutes avant, là, j'avais même pas
repéré. Ah non, moi j'ai tout de suite reconnu, parce que justement il a les cheveux courts, je trouve qu'il a vraiment la même coupe que dans en tant que Batman, et qu'il avait pas trop changé, quoi. Par contre, après, plus tard dans le film, il a les cheveux plus longs, bon voilà, c'est un peu moins
ouais, clair. Plus long la mais barbe, par contre, mais au final, moi je l'ai plus reconnu plus sur la barbe que Batman, tu vois. Ce qui est drôle, parce que j'aime Batman plus que tout, mais bref.
Cet homme n'est pas grec.
Non, alors voilà, alors, c'est là. Tout. Donc, justement, donc voilà. Là, pour l'instant, il a encore rien dit. On n'entend pas parler. Mais là, il y a sa mère qui arrive parce qu'elle est vraiment, vraiment très stressée. Que les gens, oh, j'ai entendu dire que tu t'es fait tirer dessus. Ah mon Dieu, je vais mourir à cause de toi. Tu vas me faire stresser. Blablabla. Et là, on entend Christian Bale sortir ses premiers mots et ça m'a complètement sorti du film. Mais genre littéralement.
Ouais.
J'étais genre, oh, pour l'instant, je suis à peu près dedans. Ça va bien. Paf. Le pire accent que j'ai vu de ma vie... Bah, en fait, le pire accent que j'ai entendu de ma vie, pour l'instant...
Oui, attention.
Pour l'instant. Mais il était dégueulasse, quoi. Il était dégueulasse, et c'est drôle, parce que...
Je sais pas ce qu'il a essayé de faire.
J'ai regardé ce film à côté d'une personne qui a lu le livre, pendant qu'elle travaillait, elle m'a entendu rigoler comme un connard. J'ai dû mettre en pause le film, et elle m'a demandé c'est quoi le problème. Je suis juste... Ça, c'est Christian Bale, puis écoute son accent. Oh mon Dieu. Donc, voilà. Elle est pas une personne joyeuse ensuite. Mais bref. Il me semble que soudainement, ils apprennent que voilà la.
Oui, ils entendent à la radio, ou je sais plus où, que, en gros.
Ils allaient à l'attaque, quoi.
Donc, il y a la guerre qui est en train de se dérouler, et il se trouve que. En gros, ils apprennent que les Italiens vont occuper l'île, quoi. Enfin, la Grèce et par extension l'île.
C'est ça. Et Mandras décide, lui, que bah non, c'est un guerrier, donc il faut qu'il aille se battre. Ils vont se battre, et donc il y a cette espèce de petit moment où on apprend en fait que les Italiens se font repousser par les Grecs, donc 14 000 Italiens se font repousser par 8 000 Grecs. C'est quand même une bonne escarmouche. Sauf que, bah, bien sûr, les Italiens ont ensuite le support des Allemands. Et donc, les Allemands les Italiens finissent par prendre la Grèce. Et c'est là, finalement, en gros, que le film, entre guillemets, commence. À partir du moment où les Italiens viennent occuper l'île en question. Malgré le fait que les Grecs refusent de se rendre... à quiconque autre qu'un Allemand, finalement, parce que pour eux, ils ont pas perdu, ils ont gagné contre les Italiens, mais ils ont perdu contre les Allemands.
Oui, et puis et voilà, il y a une vraie haine, enfin, la haine est plus forte entre les Grecs et les Italiens que les Allemands, qui sont forcément quelque chose, des ennemis un peu plus lointains.
C'est ça. Et c'est là, en fait, qu'on fait la connaissance de deux personnages qui sont très très importants, le capitaine Antonio Corelli, joué par Nicolas Cage, et sa mandoline, bien sûr, comme tu disais, mais aussi Gunther Webb, qui est aussi un capitaine, mais lui de l'armée allemande, qui est joué par David Morrissey, que je trouve vraiment bon, début à la fin, ce mec-là. Ouais. J'ai toujours adoré David Morrissey. Par contre, Nicolas Cage, lui... Donc, il joue un Captain Antonio Corelli, qui est un officier de la 33e division d'infanterie italienne, qui est, un gars plutôt jovial, qui aime beaucoup jouer de la mandoline.
Oui, qui, en fait,
Qui a jamais vu la guerre, vraiment, et qui se pride, en fait, qui a justement cette fierté de n'avoir jamais tiré sur quelqu'un.
Voilà.
Et qui, en plus, qui chante dans une chorale, donc qui chante de l'opéra encore, de l'opéra italien, et on en a parlé la dernière fois dans The Family Man. Moi, je suis toujours content quand Nick Cage chante de l'opéra.
Ouais,
par contre, là où je suis moins content, c'est quand il parle, en fait.
Bah, c'est bizarre, ouais, mais je sais, en fait... il force à fond l'accent italien, quoi.
Ce que je trouve exceptionnellement bizarre, parce qu'on l'a déjà vu jouer un italien dans le raccourci. Oui. et il était pas dégueulasse.
Ou même d'autres personnages de d'origine italienne, mais je sais pas, là, il le force à fond, quoi.
Il force à fond, il a un accent, mais qui est dégueulasse. Et ça m'a ressorti.
Le pire, c'est que des fois, cet accent, elle l'oublie, quoi.
Oui, en plus, il est pas consistant.
Il y a un moment, je sais plus, il revient, tu l'as pas vu depuis un petit moment. Je fais, mais pourquoi maintenant, il parle vraiment avec son accent normal, quoi. Et là, on voit que la phrase d'après, il y repense, il repart en boucle. C'est assez bizarre, quoi.
Ça a été difficile. Ouais, c'est un rough Nicolas Cage à regarder, pour le coup.
Après, sur le reste, en dehors de ça, ça va. Mais ouais, c'est vraiment dur de pas se concentrer, enfin, de pas avoir le cerveau qui est pris uniquement par cet accent.
Je sais que non, là, normalement, c'est plutôt le truc où on parle du résumé et tout ça, mais je pense que c'est important de faire cette distinction maintenant, parce que je pense que nos auditeurs veulent la réponse maintenant. Julien, d'après toi, Nick Cage ou Christian Bale qui a le pire accent jamais fait?
En fait, c'est bizarre.
C'est difficile à répondre, hein.
Non, en fait, c'est, moi, je dirais Nicolas Cage. Christian Bale, c'est juste que dans l'ensemble, il n'y a rien qui va. Physiquement, il n'y a rien qui est crédible et le mec fait aucun effort. Et Nicolas Cage, en fait, il fait trop d'efforts. Donc, il se plante pas pour la même raison, quoi.
Non, mais moi, je vais être honnête, je pense que au son, ça reste Chris Bell.
Oui.
Ce truc me casse les oreilles. À chaque fois qu'il parle, là, j'étais genre...
Non, parce que Nicolas Cage, c'est un Italien qui en fait un peu trop, à la rigueur.
Ouais.
Et Chris Bell, c'est juste un gallois, quoi.
Mais par contre, ça reste agressif, hein, ce qu'il fait Antonio Corelli. Le problème avec Nicolas Cage, c'est qu'il est beaucoup à l'écran.
Ouais.
Donc, alors que Christian Bale, pas tant.
Enfin, je suis quand même plus gêné par Christian Bale, quoi.
Ah, moi aussi.
Mais bon, s'ils avaient pu prendre au moins un acteur qui était de la bonne nationalité, ça aurait été bien, hein, parce que même David Morrissey, il est gentil, mais il est pas du tout allemand, hein.
Il est anglais.
Oui.
Mais son accent allemand est écossais, à peu près correct.
Non,
il est
ça
un
va,
peu forcé.
Mais, putain, il y en avait pas, quoi. Ah oui, il vient de Liverpool. Putain, ouais. Alors, ça va, il a réussi à gommer l'accent de Liverpool, parce que l'accent de Liverpool, c'est quand même quelque chose, hein.
Ouais, non, mais parce que, il joue bien un Allemand qui parle anglais.
Et non, mais ça va.
Je trouve que ça va.
En fait, c'est un des problèmes du film. Je trouve qu'il y a plein. En fait, le film à aucun moment ne. Enfin, ils parlent tous anglais.
Ouais.
Et il y a des moments où tu te dis, ok, là, ils parlent pas vraiment anglais. C'est ils parlent grec, mais ils l'ont mis en anglais pour le film.
Ouais.
Ou ils parlent italien, mais ils l'ont mis en anglais pour le film. Mais en fait, du coup, c'est un peu bizarre. Il y a des espèces de variations dans les accents selon si c'est ils parlent vraiment anglais. Et du coup, moi je suis toujours dans la préférence que si les personnages parlent en grec, bah ils parlent en grec.
Ouais, avec des sous-titres. Ou alors tu le fais comme il faut à la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan. Mais lui, il avait prévu son film comme ça, quoi. Donc, où justement les Russes parlent russe, puis quand tu les comprends, ils parlent anglais, puis blablabla. Oui. Donc, c'est.
Parce que en plus le film essaye d'être réaliste d'un point de vue historique.
Ouais.
Et du coup, je trouve ça dommage de pas avoir fait cet effort-là, mais je pense qu'ils avaient juste peur du public, quoi. Public surtout américain, hein, évidemment. Qui dès qu'il voit des sous-titres, il est en panique.
Ouais.
Dès qu'on parle pas dans sa langue. Mais c'est un peu dommage, quoi, parce que ça va un peu à l'opposé de. De pas mal d'autres points du film, donc bon, écoute. Continuons quand même notre résumé. Hein.
Voilà. Alors là, on va avoir le droit à un moment... Moi, j'ai souffert de ce moment-là. Chiant. La première partie du film où, justement, on apprend que, en fait... maintenant, l'île, elle est sous occupation italienne, et on a le droit à John Hurt, qui joue le Dr. Yanis. Voilà, Dr. Yanis... Qui lui, au final, il s'en fout un peu. C'est pas si important pour ça, pour lui. Tout ce qui est important pour lui, c'est qu'il puisse continuer à avoir
soigner les gens, c'est le plus important, quoi.
Voilà, il veut continuer à avoir des objets médicaux pour pouvoir soigner les gens. Et donc, il passe une espèce d'accord avec les Italiens en leur disant, écoutez, faites venir un de vos capitaines chez nous. Il va dormir chez nous, il sera accueilli chez nous comme...
Voilà, parce que tous les officiers sont censés dormir chez l'habitant, on va dire. Mais en échange de ça, voilà, en échange de ça, vous me permettez d'avoir accès à du matériel médical. C'est à ce moment-là donc que le capitaine Corelli va faire connaissance avec Pelagia, donc la jouée par Penelope Cruz.
Voilà.
Et le docteur notamment, mais surtout Pelagia, hein, parce que ça fait partie de l'histoire du film, donc c'est qu'il va en tomber petit à petit amoureux, et wow. Surtout petit à petit ça va être réciproque. Donc effectivement, ouais, je vois...
Donc c'est ça, en fait on a cette espèce de moment où... Ben, en fait voilà, Pelagia écrit des lettres à Mandras, en fait, finalement, pour lui dire, sauf qu'elle reçoit jamais de réponse. D'ailleurs on va apprendre pour la raison la plus conne que j'ai jamais vue de ma vie tantôt.
Ouais,
non mais c'est logique, mais en même temps c'est con parce que... Enfin bref, je t'expliquerai pourquoi je trouve ça con quand on y arrive.
Mais juste pour préciser, à ce moment-là on sent aussi quand même que... Enfin, l'histoire d'amour entre Mandras et Pelagia, elle est un peu bizarre, c'est que t'as lui qui... T'as un peu l'impression qu'elle l'accepte par défaut. Ils ont pas forcément trop de trucs qui les rapprochent. Ouais. Ils ont pas forcément... Ils se connaissent même pas tant que ça. Mais juste, c'est une petite île, il y a pas 15 000 personnes. Quand il y a quelqu'un qui se propose à toi, t'as un peu l'impression que... Voilà, c'est dans la nature des choses de... Ok, de laisser faire le truc, quoi. Mmh. Mais on n'y croit jamais vraiment, en fait, un peu à cette histoire.
Non, plus,
c'est pour ça qu'on n'est pas forcément étonné.
En plus, Penelope Cruz et Christian Bale ont zéro chemistry entre eux. Là.
Ah oui. Mais donc, ce qui est logique, enfin, c'est ce qui, c'est pas juste les acteurs, ça, c'est les personnages qui n'ont pas de.
Ouais, ben je sais pas, j'aurais trouvé ça beaucoup plus tragique si elle arrêtait d'être amoureuse d'une personne qu'elle aimait vraiment, mais pas vrai. Donc ouais, voilà, elle envoie plein de lettres à Mandras, puis elle a l'air quand même d'être un minimum encore très. Attachée à lui, mais le problème est que bah, comme lui il répond pas, bah, elle sait pas s'il est en vie ou pas, et ça commence à faire beaucoup de temps là. Beaucoup, beaucoup de temps, ça commence à faire 6 mois, je pense que c'est un truc comme 6 mois avant que les Italiens arrivent finalement, et donc voilà, ça fait presque 150 jours où elle sait pas s'il est encore en vie, parce qu'il répond jamais, donc elle attend juste le fait qu'il meure, donc il y a aussi ce côté là qui fait que bah, comme elle pense qu'il est décédé, elle se laisse peut-être un peu plus de trucs, mais bref.
Ouais, en parallèle, il y a Antonio Corelli, donc qui, bah, au début, bon, c'est forcément l'envahisseur, machin et tout, il est mal reçu, ce qui est bah, tout à fait normal. Hein. Oui. Bon, tout le monde se rend un petit quand même, par contre, compte au fur et à mesure que, bon, les Italiens, ça les passionne pas non plus d'aller occuper l'île grecque, que
faire la guerre.
Bon, c'est la guerre et c'est un peu une histoire d'alliance. Mais les Italiens, ils sont pas forcément fans des Allemands non plus, hein. En tout cas, les gens qui sont sur cette île et vraiment sur le terrain. Et que le capitaine Corelli en soi, ça a pas l'air d'être un mauvais bougre, quoi. Comme on l'a dit, c'est pas
quelqu'un qui... Il a pas l'air d'apprécier Mussolini non plus, hein. Il a pas l'air d'être un grand fan de Mussolini non plus, enfin.
Et au fur et à mesure des semaines, mois, les Italiens se font un petit peu, arrive un petit peu à se faire accepter entre guillemets de la population et aussi accepter du coup de Pelagia.
Alors ce que j'ai envie de dire quelque chose pour les auditeurs qui nous écoutent là, parce que tout ce qu'on est en train de raconter là, ou sur lequel on passe quand même assez vite, c'est à peu près 1h20 du film. Le film dure 2h, c'est 1h20 du film. C'est à quel point ce film est lent, quoi. Il est lent au possible. Parce que ça, là, tout ce qu'on est en train d'expliquer, c'est probablement 45 minutes du film. Le fait que Pelagia commence à soudainement devenir un peu plus machin. Corelli décide de partir de chez Dr. Yanis parce que justement, il se sent pas accepté par Pelagia et ça l'emmerde. Il préférerait ne pas être là plutôt que de l'emmerder elle. Parce que très clairement, lui aussi, il la trouve géniale, blablabla.
Donc, le film est lent, mais un peu lent à l'ancienne. C'est un peu bizarre. Je trouve qu'il fait très film des années 70-80.
Ah, oh, mais... j'ai même envie de dire... Non, parce que moi, j'aime vraiment ce genre de film-là. J'ai jamais eu de problème avec les lenteurs. Puis, à quel point j'ai pas aimé ça, là, c'est le seul film depuis qu'on a commencé Citizen Kane que j'ai arrêté au milieu. J'ai regardé en deux fois.
Bah moi, ça m'a pas gêné, la lenteur. En fait, même au niveau du grain, je trouve que ça faisait très... D'ailleurs, il explique à la fin, en fait, tout a été filmé sur place.
Ouais.
Donc, vraiment sur l'île de... comment c'est
Céphalonia.
Céphalonie, du coup, en français. Il y a un grain qui fait un petit peu... Il y a un petit côté... tu vois, il y a un petit côté Le Parrain quand ils sont en Italie.
Oui.
L'image est belle, je trouve. Les paysages sont beaux.
C'est vraiment pas le pire du film, ouais. Vraiment.
Donc, ces moments un peu de lenteur et tout, ça m'a un peu rappelé, moi, avec le grain comme ça des vieux films, mais ça m'a pas dérangé tant que ça parce que, voilà, c'est la vie qui se déroule tranquillement dans un petit village de Grèce, avec, voilà, des beaux paysages, des choses comme ça. Ça m'a pas dérangé, moi.
Okay.
Mais bon, je peux comprendre après. Okay.
Mais voilà,
mais oui, on peut passer parce qu'après, voilà,
petit truc là, parce que soudainement le film embarque plus ou moins, parce que voilà, ce qui devait arriver arriva. Le gouvernement italien et donc Mussolini se rend aux alliés finalement. Ils ont perdu la guerre, les Italiens, au cas où vous le saviez pas. Donc tout le monde est content parce que voilà, ils vont finalement pouvoir retourner chez eux. Mais et c'est là plus ou moins que ça arrive. Alors oui, on a oublié ça. Mandras revient sur l'île. Il revient sur l'île et il se fait soigner par John Hurt et il se rend compte que oui, il y a l'air d'avoir quelque chose qui se passe entre Pelagia et Antonio Corelli. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il revient juste après que.
En fait, il revient assez tôt. Dans le film, oui, mais après il
revient assez tôt et il repart, ouais, c'est vrai.
Il repart, en gros, il entre dans la résistance. En fait, ils ont perdu dans cette fameuse bataille à cause des Allemands, et après, il rentre un peu plus dans une notion de résistance. Donc,
c'est
on va le recroiser de temps en temps, mais voilà, c'est pas quelqu'un qu'on voit souvent, il est un peu en toile de fond. Et ce qui est intéressant, c'est que, enfin, moi j'ai trouvé intéressant, et même un peu touchant dans ça, c'est que c'est un personnage qui se rend compte quand même assez vite que. En vrai, il n'y avait pas tant de trucs. Il n'y avait pas. Il se l'avoue peut-être au final totalement que à la fin, mais il n'y a pas vraiment tant de choses qui les rapprochent avec Pelagia et que en fait, il va pas aller du tout à l'encontre de la relation qui est en train de se nouer avec Antonio Corelli.
Puis il semblerait aussi que la guerre, ça l'a changé un peu.
Oui.
Plus tout à fait la même personne. Puis il se rend compte aussi un peu plus tard que, justement, on s'en vient là. C'est que, quand les Italiens semblent partir, il y a Mandras qui vient parler avec Antonio Corelli pour lui expliquer que, donnez-nous vos armes, en fait. Malgré le fait que les Allemands aient demandé aux Italiens que.
Ouais, parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste les Italiens partent, parce qu'il y a plusieurs choses. C'est que, du coup, ils se retrouvent, en fait, être dans le camp opposé aux Allemands.
Finalement.
Donc, les Allemands, à la fois, ils leur promettent de les laisser partir sans les abattre. Mais ils sont quand même. C'est un peu. Ils sont dans une situation particulière, en fait. Ils sont allés sur une île pour l'occuper sous la direction allemande, et puis d'un coup maintenant ils se retrouvent face aux Allemands, mais les Allemands sont toujours là. Les Allemands veulent pas qu'ils laissent les armes sur place parce qu'ils veulent pas que la résistance les récupère pour maintenant s'en servir contre eux. Et en même temps les Italiens, eux, ils ont tendance à être un petit peu quand même plutôt du côté des Grecs. Par leur nouvel allié, mais pas que pour ça, c'est aussi.
C'est surtout parce que justement, voilà, moralité. Ils ont une discussion avec Mandras et Mandras leur explique que les autres Italiens ils ont pas eu cet honneur là et qu'il vaut peut-être mieux pas faire confiance aux Allemands, qu'ils vont probablement juste prendre vos armes et vous abattre.
Il y a d'autres garnisons italiennes à qui on avait promis aussi de pouvoir partir tranquille et où la promesse a pas été tenue donc. Donc ils sont vraiment dans une situation particulière, en fait.
Et justement, il y a un petit un événement qui fait que qui fait basculer Antonio Corelli dans de l'autre côté, qui est tout simplement, alors qu'ils rentraient à leur base, les Allemands les arrêtent et ils leur expliquent donnez-nous vos armes, en fait. Vous devez nous donner nos armes, malgré le fait que la deadline c'était le lendemain, je crois. Et juste parce que un de ces gars, un Italien, a été un petit peu agressif en crachant
une espèce d'incompréhension.
Il y a trois des Italiens qui se font juste sans se faire abattre tout à fait sommairement, ce qui fait que Nick Cage, Antonio Corelli a pas l'air de croire vraiment les Allemands et il décide justement d'aller donner toutes ses armes
sans compter le fait que déjà de base il est un peu triste de partir parce que il est
Pelagia,
mais pas que.
On a aussi un peu de dire, ils se sont rapprochés d'ailleurs, ils ont eu des relations sexuelles dans la forêt, ils ont l'air d'être un peu...
Oui, et puis en fait, lui et le reste des Italiens, ils sont aussi un peu tombés amoureux, entre guillemets, de l'île et des habitants. Enfin, il y a pas que... C'est pas uniquement ça, en fait, parce qu'on aurait pu le croire par rapport au pitch qu'on avait lu dans l'intro, mais en fait, le fait qu'il y ait Pelagia, c'est pas tant ça qui va lui faire prendre sa décision, parce que ça, en fait, il peut très bien partir et revenir plus tard, quoi. Mais il y a pas, il est quand même touché par la cause que défend Mandras, et au final c'est plutôt ça qui va lui faire accepter son deal.
Et je pense aussi que c'est pour ça que Mandras accepte le fait que Antonio Corelli et Pelagia aient un semblant de relation, c'est parce que il quand même se rend compte qu'Antonio Corelli est une personne qui a l'air d'avoir quand même une certaine moralité, quand même une certaine et donc voilà, là-dessus, la résistance utilise les armes que les Italiens lui ont données pour une petite résistance qui au final marche pas super bien. Et finalement, les Italiens se font arrêter par les Allemands et ils se font shooter. Ils se font littéralement abattre.
En fait, ils se font. Il y a un petit moment où en fait, il y a les Allemands qui les. En fait, au début, ils les arrêtent pas forcément. C'est plutôt qu'ils les accompagnent au moment où eux doivent quitter l'île.
Ouais.
Sauf qu'on comprend qu'il y a une certaine tension. On a même un des Italiens qui comprend ce qui va leur arriver et qui se met à se mettre à genoux et à prier. Et c'est ce moment-là où on va voir que d'un coup il y a des soldats allemands qui sortent derrière les fourrés entre guillemets et qui vont les abattre. Là, il se trouve qu'il y a donc un personnage qu'on n'avait pas évoqué. Mais qui s'appelle Carlo, qui protège de son corps, en fait, Antonio. Et les Allemands s'en rendent pas compte, en tout cas pas tout de suite et pas tous, mais en fait, en le protégeant de son corps, il a pris la plupart des balles, et du coup, Antonio est encore vivant, c'est le seul qui est survivant. Donc il y a un seul personnage qui va s'en rendre compte, donc c'est le personnage du Captain Gunther Weber qu'on avait évoqué précédemment, et qui lui fait un peu entre guillemets partie des gentils Allemands. Il était lui aussi le fait de rester avec la garnison italienne et dans le village l'a fait un petit peu apprécier ces personnes, et donc clairement lui ça vient pas de lui l'ordre d'exécuter les Italiens. Donc il va se rendre compte que Antonio est vivant, mais il va le laisser sur place et partir.
Probablement qu'il espérait entre guillemets qu'il ait juste pas à l'achever et qu'il allait mourir tout seul. Je pense que ça a l'air d'être plutôt ce genre de choses là.
Il achève un premier Italien.
Ouais.
Et en fait, quand il voit que c'est Antonio, là, par contre, il n'a pas le courage ou l'envie, en tout cas, de le tuer. Et on a la nuit tombée, on a Mandras en fait qui va et les hommes de la résistance qui vont passer par là, et il va découvrir que Antonio Corelli est encore vivant et faire le choix. Et là aussi, c'est un choix du coup assez fort de faire tout ce qui est possible pour le sauver. Donc, il va l'amener au docteur et là, ils vont faire quelque chose qu'il n'est pas habitué, parce que le docteur lui est habitué à avoir juste des plaies assez simples, mais bon, ils vont quand même finalement réussir par sauver le capitaine Corelli.
Voilà. Ils vont le sauver, vont le soigner, puis vont lui donner un bateau pour retourner en Italie.
Voilà. Donc à ce moment-là, Nicolas Cage disparaît de l'écran et de la vie des
de
Grecs.
Grecs.
On fait un petit saut dans le temps, on se retrouve en 47.
Et on se retrouve d'abord en 45 où la guerre est finie. Ça y est, la guerre est finie, on apprend que la guerre est finie, puis après on a un autre saut en 47, ouais.
Oui, c'est possible, ce sont deux fois. Ouais. Voilà. Mais en gros, les Grecs ont repris un peu possession de leur île. La vie recommence un peu comme avant. D'ailleurs, il y a une boucle avec le début du film où il va y avoir une boucle avec le début du film où on a à nouveau la fête.
Oui, la fête
traditionnelle. Mm-hmm. Entre-temps, il y a donc le capitaine Corelli qui a envoyé par la poste un enregistrement qu'il a fait, non pas de sa mandoline cette fois, mais avec une guitare. Donc il y a Pelagia qui reçoit l'enregistrement, qu'il écoute, mais bon, finalement, elle décide de mettre ça derrière elle et de faire comme si elle avait rien reçu, entre guillemets. Et c'est son père qui, lui, va par contre écrire une lettre en disant elle t'a pas répondu, mais je sens, enfin elle fait comme si de rien n'était, mais elle est triste au fond d'elle.
Avec le meilleur cliffhanger, avec le meilleur retournement de situation que j'ai vu de ma vie. Le mec est en train d'écrire sa lettre et au milieu de la lettre, pendant qu'il l'écrit, il y a littéralement un tremblement de terre qui détruit sa maison et qui détruit la moitié du village.
Ouais.
Enfin, c'est pas drôle, hein. Je suis sûr que c'est un véritable tremblement
Ils en parlent
qui a dû arriver sur cette île. Hein.
Ils en parlent.
Sur le coup, t'es genre.
Ils en parlent plutôt dans le film que c'est, a priori, c'est pas la première fois qu'il y a ça. Et puis après, ils en reparlent à la fin du film dans le petit cartouche de fin. Qui a priori, c'est quelque chose qui a priori a tué quand même pas mal de monde sur l'île.
Ouais.
Donc voilà, il est dans la maison au moment du tremblement de terre, mais finalement on découvre qu'il a réussi à s'en sortir à temps.
Il est tout à fait correct, Pelagia est aussi correct. Voilà. Justement, ils sont en train de réparer un peu tout ça, et justement, voilà, au moment où ils réparent un peu tout ça, il y a cette espèce de fête sur l'île. Et pendant cette fête, ben, Dr. Yanis, John Hurt, semble repérer une personne de loin qui ressemble à Antonio Corelli, et il s'avère qu'il avait tout à fait raison, puisque. L'image de fin du film, c'est Antonio Corelli qui retrouve Pelagia. Il a les cheveux grisonnants, il a l'air un peu vieux. Pour lui expliquer qu'il avait essayé de vivre sans elle, mais il pouvait pas. Et que finalement, il a décidé de revenir pour elle. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que le film se termine là-dessus.
Voilà, juste après, on a le droit juste au petit cartouche dont je parlais, donc pour dire que le film est un hommage à tous les Italiens qui ont été abattus par les Allemands lors de leur dans la fin de la lorsque les garnisons essayaient de rentrer en Italie, et également un hommage à tous les habitants qui sont morts lors des tremblements de terre qui ont suivi l'arrêt de la guerre. Et voilà, pour nous dire que aussi ça, le film a été tourné sur place, entièrement sur place, etc., etc. Donc un film qui est au final clairement politique et qui avait envie de passer de s'ériger en hommage quoi à ça.
Ouais.
Et puis oui, voilà, c'est la fin de ce film et. Tu avais des choses à dire ?
Ah ouais, Alors, déjà, c'est assez drôle, hein, parce que la dernière fois, j'ai parlé de Family Man, puis à quel point je l'avais trouvé nul. Mais alors, l'huile, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai... Autant l'autre, je l'ai trouvé nul, mais alors lui, je l'ai juste plain pas aimé. Et je suis très fâché par rapport à ça, parce que j'ai absolument rien contre les films d'amour. T'as des histoires d'amour, un film romantique, je trouve ça plutôt cool. J'adore les films de guerre. J'avais jamais vu un film sur ce sujet-là. D'ailleurs, je trouve par contre que le sujet en tant que tel, il est quand même très très bien. Il a un beau traitement et ça c'est cool. Mais alors, il y a rien qui marche pour moi. À part la pellicule, comme tu disais. La photographie est superbe, mais il y a rien qui marche quoi. On en a parlé au début, John Hurt et Penelope Cruz, ils sont consistants et ils sont bons, mais même là, il y a quelque chose qui est un peu off. Nick Cage, il m'a sorti, dès le moment où il parle, il me sort du film. Christian Bale, dès le moment où il parle, il me sort du film. Puis en fait, je pense que c'est probablement pour ça que je le trouve nul, en fait. Que je peux pas supporter ce film. C'est juste parce qu'il me sort tellement du film, du début à la fin. Si ça avait pas été, ou s'ils avaient eu un autre accent les deux, peut-être que j'aurais probablement apprécié le film bien plus. Mais à ce niveau-là, je l'ai pas aimé. Le traitement, j'ai adoré le traitement de fin. C'est-à-dire à partir du moment où la guerre embarque, j'ai même été étonnamment surpris par le tremblement de terre à la fin. J'ai ok. Comme je t'ai dit plus tôt, j'ai arrêté le film, je l'ai regardé en deux parties, tu vois. Je l'ai arrêté, et en fait, je pense que si jamais j'avais arrêté et j'avais pas regardé la fin, par exemple, mon opinion du film aurait été genre, c'est un très mauvais film. Alors que finalement, la fin, je trouve, rattrape un peu tout le truc, parce que justement, ça part, ça devient plus intéressant. Mais le début, là, ça prend une heure et demie, là. Le nombre de fois où j'étais genre, allez, le film, il dure 2 heures, le nombre de fois où je me suis dit, ça doit faire au moins... Ça va faire au moins 1h30 que je le regarde, puis je regarde, ça fait 20 minutes. J'ai genre, non, t'es tout fou de ma gueule. Et j'ai rien contre les films longs. J'adore les films des années 50, 60, 70, 80. J'ai rien contre les films longs, mais c'est un des films les plus longs que j'ai vu de ma vie. Pour aucune raison, en fait. Parce que l'histoire, justement, entre le... entre Mandras et Pelagia, on s'en fout un peu. T'as raison, parce qu'il y a aucune, chemistry entre les deux.
Non, mais bah justement, je pense pas que c'est la raison pour laquelle tu t'en fous. Enfin, moi je trouve justement que c'est intéressant parce que c'est différent quoi. Je trouve que le personnage de Mandras c'est assez touchant dans sa dans son acceptation en fait de se dire en fait clairement il y avait pas vraiment tant de choses que ça entre nous et il l'accepte très rapidement hein, donc au final le fait qu'il y ait rien entre eux c'est un des sujets du film. C'est pas juste un truc qui parce que le truc est mal fait, c'est que c'est ce qu'il voulait dire je pense.
Ouais mais ça nécessitait pas une heure et demie pour ça, honnêtement. D'ailleurs, on en a pas parlé, j'ai oublié de le dire, j'avais dit que j'en parlerais, mais ok, la raison pour laquelle il a jamais répondu, c'est parce qu'il est illettré. Il sait pas lire ni écrire. Ce que je trouve, c'est correct, c'est une bonne raison. Mais on en a pas parlé non plus, mais Pelagia, tous les jours, elle allait voir avec sa mère, avec la mère de Mandras, sur un panneau s'il était mort ou vivant. Et sa mère, ça lui a pas pris à la tête de lui dire « Ça sert à rien que tu lui écrives des lettres, il sait pas lire ni écrire. » Elle, tu sais, genre, personne sait que ce mec-là sait ni lire ni écrire. Enfin, j'ai trouvé ça, genre, pour moi, je suis d'accord, c'est probablement que c'était dans le livre aussi, hein. Je pense pas que c'est un failing de la part du film. Mais je trouve cette raison particulièrement stupide.
Non, et, moi, je trouve que ça construit le personnage, justement. Passer outre, quoi. Ça construit le personnage et ça fait partie de ce qui le rend un peu attachant. Ce côté, bah, j'avais un peu honte de le dire. Après, que sa mère sache pas, à la rigueur, c'est vrai que c'est un peu bizarre dans ce sens-là. En même temps, est-ce que sa mère, elle sait qu'elle lui envoie plein de lettres, je sais pas.
Bah, je pense que oui.
Bref.
Je suis d'accord. Mais au final, tout ça, je trouve que c'est un peu du temps perdu sur ce qui est plus important ou plus intéressant.
Alors, ça prend 5 secondes après l'histoire entre Pelagia et Mandras. Hein. C'est vraiment très peu du film.
Ben alors, si c'est très peu du film, dans ce cas-là, ça veut dire que tout le reste est encore plus long, quoi. Et je trouve ça super chiant, quoi. Donc, mais ouais, oh, cette première partie, elle m'a fait beaucoup de mal, parce que... Ah, c'est long. Et comme j'ai dit, pour que moi, je trouve quelque chose long, il faut m'en donner, là. Donc, voilà. Mais après, puis... On s'entend, je suis sûr que, ouais, le fait que Nick Cage, il est pas bon, le fait que Chris Bell, il est pas bon... en vrai, j'étais juste la chose qui me tenait, c'était de voir David Morrissey. J'étais juste content de voir David Morrissey parce qu'il joue un peu. Voilà, on en a pas beaucoup parlé, mais il joue un peu un Allemand qui a pas l'air d'être super bien dans ses bottes. Il est un peu awkward. Il est un peu timide, on dirait. Par exemple, quand il tire sur un gars pour l'achever, on sent que c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Puis on sent que c'est difficile pour lui. Bon, je vais pas non plus faire le stretch en mode oui je vais me sentir mal pour un Allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, on va dire j'en suis pas là, surtout un capitaine quoi. Il est clairement arrivé là parce qu'il le voulait un minimum. Mais voilà, il a c'était drôle de le voir jouer cette espèce de gars un peu shy ou un peu voilà, quand il va parler sur la quand il va sur la plage parce que les Italiens sont en train de tous chanter et qu'il arrive en mode ah, je vous voyais vous amuser, alors je me suis dit que j'avais envie de venir un peu. Bon, c'est un peu gentillé, donc c'est correct. Mais à part ça, oh là là. Oh, il y a rien qui m'a fait plaisir quoi. Voir Nick Cage maquillé en vieux. Bah en vieux, en grisonnant.
En Nick Cage de maintenant, en fait. Ça m'a fait trop bizarre, parce que même son costume, en fait, j'ai trouvé qu'il était limite... Enfin, c'est trop moderne, quoi, c'était assez bizarre. après, ouais, sur le film, bah alors moi, c'est un peu limite l'inverse, entre guillemets, dans le sens où, généralement, enfin, je peux vite m'ennuyer. Là, ça m'a pas choqué plus que ça. Okay. En fait, mais je peux comprendre. En fait, le film a... Je trouve à de vraies qualités et un énorme défaut qui est, on a déjà parlé, mais c'est juste n'importe quoi. Tu veux faire un film avec des personnages grecs, tu prends des acteurs grecs, tu vas pas nous faire chier. Enfin, c'est ce côté de devoir prendre des Anglais, des Américains pour jouer tous les rôles, toutes les nationalités, c'est juste n'importe quoi. Et ça emmène à des trucs improbables qui font qu'on aurait apprécié le film beaucoup plus. avec des gens qui étaient concernés, quoi. Et puis, s'il y en avait eu, justement, les gens qui parlaient dans le langage d'origine, etc.
Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est par contre, tous les autres, la mère de Mandras, Carlo,
oui.
Monsieur et Madame Stamatis qu'on croise, eux, c'est clairement tous des Grecs.
Oui, mais au moins, c'est pas des personnages
adjacents, quoi.
Donc, oui, non, mais de toute façon, on voit dans le générique, hein, c'est des acteurs grecs, hein, c'est des noms grecs.
Ouais.
Mais voilà, ça, c'est le gros défaut du film, je dirais. De par le côté, enfin, la moralité et de par ce que ça implique, même juste d'un point de vue juste cinématographique, où il y a plein de choses qui marchent pas. Après, en dehors de ça, moi, le côté lent, ça m'a pas forcément gêné. J'ai trouvé, voilà, j'ai retrouvé le côté, enfin, le grain et l'image étaient très jolies et m'a fait penser, voilà, à des films des années 70, des choses comme ça. Donc, j'ai retrouvé un peu cette ambiance-là. Puis voilà, la petite vie de village. Et qu'est-ce qui va impacter cette petite vie de village? Mais en même temps, tu continues à... C'est assez long et tout se fait pas dans l'immédiateté, quoi. Tout est un peu... Tout prend du temps à se mettre en place.
Ouais.
Tout est lent. Tu vois que, voilà, elle, pour faire à manger, à chaque fois, elle va chercher ses provisions... à pied, enfin ils font tout à pied, enfin c'est voilà, tout est long, mais voilà, ça fait partie de cette petite vie de village. Après ouais, moi j'ai trouvé ça intéressante, enfin j'ai bien aimé le personnage de Mandras, enfin du coup il y a un gros décalage entre l'interprétation de Christian Bale et le personnage en soi. Enfin j'ai trouvé intéressant que ça soit, enfin je l'ai trouvé touchant dans son côté, voilà, de toute façon je l'ai déjà dit, hein, qu'il se rend compte qu'en fait c'était un peu du vent cette histoire d'amour et que du coup il passe très vite à autre chose et il est très vite du coup en fait il est pas dans le ressenti, il va pas faire les choses en voulant être contre Antonio Corelli, il va penser au bien de l'île et au bien de la Grèce, etc. Avant son... Il aurait pu être, se mettre à détester le mec, mais en fait, non, c'est pas du tout. Donc là, il a une certaine grandeur d'âme, en fait, par ses actions. Voilà, ensuite, qu'est-ce que... Bah, après, voilà, le contexte historique, je trouvais super intéressant, et la fin est au final assez émouvante.
Ouais.
Le massacre des Italiens, puis le tremblement de terre. Les scènes sont plutôt réussies, je trouve.
Le tremblement de terre est vraiment...
Les deux, réussi, en fait. Mais oui, le tremblement de terre. Notamment, je trouve que c'est assez émouvant. Ça marche bien.
Ce qui, d'ailleurs, personnellement, est une de mes plus grosses peurs dans la vie. Donc, de voir John Hurt tomber, là, tu sais, genre que... Parce que sa maison, elle s'effondre, j'étais juste genre... Oh, mon Dieu.
Ouais.
Ça, c'est venu me chercher, donc... Non, quand même vraiment bien là-dessus. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est drôle, hein, des fois un film, ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant au final, un film c'est pas la somme de toutes ses parts, tu sais, je veux dire,
oui,
tu peux avoir
un gros défaut qui t'accroche,
d'excellents acteurs, une excellente cinématographie, d'excellents effets spéciaux, et au final juste parce qu'il y a quelque chose qui sort du film, tu vas le trouver super nul. Puis moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec les accents et le fait que je le trouve long, en fait. Alors que t'as raison, le traitement est pas dégueulasse, les dialogues sont pas non plus horribles, il y a quelques interactions que je trouve la mère de Mandras, elle me fait rire, mais à chaque fois...
Oui, et puis t'as l'autre qui, avec sa femme, au début, il enlève un poids qu'il a dans l'oreille et d'un coup, il se met à attendre bien. Puis après, il demande au médecin, parce qu'il y a sa femme qui le saoule, est-ce que tu peux m'en mettre le poids dans l'oreille? Enfin, c'est marrant.
C'est ça, mais au final... J'en garde vraiment pas une bonne... J'ai pas une bonne vision du film. Enfin,
non, mais je suis d'accord que des fois, il suffit d'un truc qui te casse l'immersion, et puis voilà, quoi.
Ouais.
Et après, juste pour finir, alors, j'ai pas lu le livre, du coup.
Ouais.
Mais, a priori, ça a l'air d'être très, très, très différent.
Ouais.
Vraiment. Notamment, je pense que... Alors, je sais pas combien de pages fait le livre, mais j'imagine qu'il est beaucoup... Enfin, là, tous les choix de différence sont liés au fait de raccourcir le récit.
Ouais.
Pour en faire un film. Après, il y a comme quelques indices dedans qui me laissent penser qu'il doit y avoir peut-être un autre montage beaucoup plus long avec des trucs en plus.
J'ai l'impression, et ça c'est juste mon impression, en fait j'aurais peut-être demandé à mon ami qui connaît ce livre, j'ai vraiment l'impression que la relation entre Mandras et Pelagia est probablement plus développée dans...
Oui, bien sûr, c'est le cas.
Et dans le sens où ils doivent vraiment s'aimer dans le livre.
Oui, je pense que c'est le cas. C'est ce qu'en fait, moi j'ai lu à peu près un peu le résumé c'est ce qui en ressortait, mais il y a aussi tout un truc avec le docteur qui se fait enlever par les Allemands parce qu'il est censé, parce qu'il est soupçonné de je sais pas quoi. Après, lui, il est censé, dans le livre, il meurt pendant le, enfin bon. Puis il y a des personnages en plus. Ouais. Mais ce qui me fait penser qu'il y avait peut-être un montage différent, c'est que le personnage de Carlo, qui est présenté un petit peu, qui est mis en avant au début du film. Et en fait, il ne sert à rien, le personnage. Et à la toute fin, c'est lui qui va protéger Antonio. Et il se trouve que a priori dans le livre, il y a toute une histoire, il y a une partie du livre qui parle de l'histoire d'amour entre Pelagia et Antonio et Pelagia et Mandras, mais il y a aussi apparemment une partie assez importante qui parle d'histoire d'amour entre Carlo et Francesco, puis Antonio. Francesco qui est pas du tout dans le livre, dans le film, et donc qui sont donc deux amours homosexuels. Donc qui étaient donc assez sûrement assez même si le film est pas si vieux hein. Quand même assez novateur par rapport au moment de l'action.
Ouais.
Et qui pourrait expliquer notamment le fait que Carlo se sacrifie un petit peu pour Antonio. Est-ce que... Alors ça, je pense que voilà, c'est... Donc ils ont fait le choix de l'enlever pour... Est-ce que je pense qu'il est assez logique pour réduire le... Pour pas mettre trop de choses dans le film, mais ça aurait été intéressant, je pense. Il y a une espèce d'impression qu'il y a une espèce de trace qui reste de ça. Et donc oui, ça aurait été intéressant. Et oui, il y a carrément des personnages comme Francesco qui ont carrément totalement disparu. D'autres personnages encore. Enfin bon, en lisant le résumé, en fait, c'est assez différent.
Mais tu vois, c'est un peu con à dire, mais je pense que c'est aussi une des choses qui... C'est un peu comme je disais, j'ai l'impression que c'est un peu plus développé avec Mandras dans le livre. Et je pense que si le film avait osé balancer ça comme un véritable triangle amoureux, au lieu d'avoir directement genre Mandras qui accepte que l'autre je pense que ça aurait été peut-être aussi plus intéressant.
Bah justement, moi je trouve ça intéressant que ça soit pas le triangle un peu cliché du film quoi, le triangle amoureux cliché, que là qu'il y ait quelque chose d'autre qui en ressorte.
On te présente quand même, le début du film te présente quand même l'amour entre Mandras et Pelagia. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'ils ont rien en commun et tout ça, mais comme quand même quelque chose de fort.
Bah, je suis
au
pas
point
d'accord,
qu'elle
moi.
Va aller genre jusqu'à défier son père pour épouser Mandras. Donc,
oui, mais
genre...
comme c'est une enfant en fait, comme une enfant qui pense que son premier amour.
Oui,
moi, je trouve que dès le début, moi en tout cas en voyant le film et en commençant à voir les histoires, dès le début j'ai ressenti quand même que c'est, ils n'étaient pas faits pour s'aimer quoi.
Oui,
peut-être. Moi je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant. En tout cas, ça change du schéma classique. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais après, a priori, voilà, le livre, est, je pense qu'il doit faire quand même pas mal de pages. Il a l'air de s'apesantir sur pas mal de choses, et notamment beaucoup plus sur le point de vue de Mandras, même après en tant que résistant, etc. Donc, je pense que le film, enfin, en tout cas, le film a l'air assez différent et c'est ça peut être un bon choix d'adaptation, mais du coup ça doit être quand même intéressant de lire le livre même après avoir vu le film.
Peut-être, ouais peut-être.
Mais voilà.
Bon, sur ce, parlons-en un peu, on en a quand même déjà parlé pas mal, mais essayons de parler un petit peu de notre petit Cage.
Ça va être compliqué.
À part cet accent immonde.
Hein, ouais, mais bon.
Parce que ça, c'est quand même beaucoup, partie. C'est quand même beaucoup de son rôle. Hein, je suis d'accord avec ça.
Bah, si on sépare les deux, sur la prestation autre que l'accent, je dirais que c'est correct.
C'est convenable. Ouais, je suis d'accord avec ça.
Mais je dirais pas que c'est côté, beaucoup plus.
Le côté un peu guignolesque qu'il a, ce côté un peu bon vivant, on va dire, que j'ai trouvé très intéressant. Mais c'est vrai que dès à partir du moment où tu rajoutes l'accent là-dedans, ça casse
beaucoup. Oui, puis même sans ça, le reste n'est pas exceptionnel non plus, quoi.
Non, exact.
C'est donc
le moment, il y a un moment, on n'en a pas beaucoup parlé, il y a un moment où les Italiens commencent à se battre contre les Allemands. Et où on le voit se battre. On voit Captain Corelli se battre. J'ai trouvé que c'était la version la plus molle de Nick Cage que j'ai vu se battre, quoi.
C'est vrai.
On le voit courir un peu avec son flingue, il tire n'importe où. C'était ils ont pris ça en une take, quoi. Puis ils ont bidon. Et en fait, d'ailleurs, tu vois, c'est peut-être que je suis en train de me dire, comme tu disais que c'était filmé sur place. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être dû faire beaucoup moins de take que d'habitude. C'est parce que t'as de la lumière naturelle, faut que tu les fasses rapidement et tout ça. Peut-être que ça a dû jouer sur le truc, parce que enfin, ce truc-là, j'ai l'impression qu'il a été fait en une take, quoi. Puis en une prise, pardon, et que ça a pas été grandiose. Mmh, quoi. Mmh. Mais bon.
Peut-être. Oui.
Donc c'est peut-être difficile de noter un peu ça, quoi.
Mais voilà. Bon. En tout cas, déjà, bon, sur la folie.
Sur la folie.
Bah après, il y a des moments où, enfin, c'est un personnage qui est quand même assez exubérant. Il y a un petit moment où il est bourré.
Parce que c'est ça, son personnage est exubérant, mais il va pas non plus dans l'exubérance incroyable.
Non.
Même quand il chante, même quand il pousse, j'y mettrais un 3 sans trop de problèmes.
Ah non, non. Ouais, après, moi je suis plutôt de l'école de partir de la moyenne et après de regarder si je mets un peu plus ou un peu moins.
Ah ok.
Donc moi, tu vois, je pense à 5,5.
Ouais, c'est une bonne moyenne. Une bonne moyenne.
5 ?
J'y mettrais 5, ouais. Allez. 5, c'est bien correct.
Par contre, sur la performance.
Alors, parce que là, si on utilise le même truc, c'est-à-dire partir de la moyenne, puis après on descend sur si c'est pas bon, oh là là.
Ouais.
Mais parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a du bon, il y a du bon dans ce qu'il fait, donc c'est clair qu'il gagnerait quelques points sur du bon, mais par contre, après, il en perd beaucoup sur l'accent. Hein.
Ouais, moi, tu vois, je mettrais...
Moi, je serais partant pour un 4.
Ou 4. 4, c'était Boy in Blue.
Ouais, mais c'est ça, tu vois, ça c'est chiant, parce que Boy in Blue, il est juste plat. Là, il est pas bon, quoi. Enfin, il est...
Ouais, non, je mettrais 4.
Mais du 3.5, alors.
Ou 3.5, ouais, allez. 3.5, ouais, c'est ouais. Par exemple... Amos
3.5,
Andrew.
C'est Amos et Andrew. Ouais, bah tu vois,
allez,
ouais.
3.5.
Ouais, je suis très ok avec Amos et Andrew, quoi. Oh mon dieu.
Voilà, donc bon, ça faisait un petit moment. Ça faisait... D'ailleurs, ça faisait depuis la petite période Amos, Andrew et Deadfall qu'on n'avait pas eu un Nicky Edge en dessous de la moyenne.
Ouais, hein. Non, c'est vrai, hein.
Mais...
C'est triste.
Et... Ouais. Du coup, j'espère que ça va pas le... ça va pas le relancer dans
la
une
suite,
spirale ouais. Négative.
Bon, on s'entend qu'après, il y a quand même des films qui s'en viennent qui sont assez...
Oui.
Ou question performance, il est censé être bon, quoi.
Oui, oui, oui. Il y en a certains qu'on a des assurances.
Adaptation, Matchstick Man.
Voilà, par exemple. Mais voilà, écoute, pour le savoir, il faudra nous suivre. Et donc, pour nous suivre, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @CitizenCagePod, sur Facebook et Instagram, CitizenCagePodcast, et puis sur toutes les différentes façons d'écouter des podcasts, en fait. Hein. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify, et puis toutes les applications style Podcast Addict, hein. Via notre flux RSS ou tout simplement pour celles qui possèdent un moteur de recherche. Dans la recherche, vous cherchez Citizen Cage et vous allez tomber sur nous. Donc voilà, comme ça vous pourrez voir si ça s'empire ou ça s'améliore sur les prochains films. Et en parlant de prochains films, le prochain ça sera Christmas Carol. Donc c'est quoi ? Une nuit de Noël. Donc film d'animation.
Ouais.
Donc voilà, on va voir au moins là s'il fait un accent de merde, il va avoir zéro direct parce que on va pas rattraper ça par son jeu de corps et de ses expressions faciales. Donc là, il devra tout miser sur sa voix. Donc
s'il a un accent de merde, je finis même pas le film, moi je pense. C'est genre ça arrive, accent de merde, je suis genre,
bon, il va faire un accent britannique là.
Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Ce sera un épisode de 3 minutes où on va juste être genre, c'est un accent de merde. Voilà, allez,
next.
À la prochaine. Mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Puis on vous dit à la prochaine fois.
Ouais, ciao à tous.